Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour le bonjour, aujourd'hui j'ai fait une petite place à Clarence Pletzel, un ami orinois. Eh oui, on peut avoir des amis dans le Overland, dans le 6-8. C'est Gérard Leser, connu comme le loup blanc avec sa crinière blanche. Un homme de cœur, avec une belle âme, un garçon savoureux qui sait tout sur tout. Gérard est l'ami des hommes, un orateur, un conférencier, un passeur alsacien de culture alsacienne. C'est pas beau ça Gérard?
Tout à fait.
Alors ce matin, tu es l'invité de cette émission sur Radio Judaïka 102.9. Wie geht's dir, Gérard? Comment ça gazouille dans ton monde aujourd'hui?
Eh bien, ça gazouille plutôt bien. D'abord, je suis content d'être là. Deuxièmement, j'ai passé en tout 13 ans à Strasbourg, donc c'est toujours un plaisir que de revenir à Strasbourg, dans lequel je me promène régulièrement. Et puis,
c'est un peu ton jardin, Strasbourg?
Pas vraiment, j'ai plusieurs jardins, j'habite Colmar, je suis natif de Münster, j'habitais 10 ans Mulhouse, donc je connais un peu les trois grandes villes alsaciennes, mais c'est vrai que Strasbourg, c'est la période étudiante, j'ai appris beaucoup de choses, c'est là où j'ai redécouvert avec beaucoup d'autres, ou plutôt découvert la culture alsacienne, notre histoire, notre langue ou nos langues, notre patrimoine culturel, donc c'est quelque chose d'important pour moi que de revenir à Strasbourg.
Tu parles de ta langue, est-ce que tu as été biberonné avec le dialecte? Est-ce que tu te nourris de l'alsacien?
L'alsacien ou l'alémanique, puisque je préfère toujours dire que c'est l'alémanique, c'est une langue totale ou entière pour moi. J'ai grandi dans cette langue jusqu'à l'âge de 6 ans et j'ai commencé à apprendre le français en allant à l'école à Münster, l'école primaire, à l'âge de 6 ans. Donc avant, je ne parlais que l'alsacien.
Et en fait, dans le Haut-Rhin, on le parle un peu différemment que chez nous ici dans le Bas-Rhin.
On parle différemment, c'est de l'alémanique comme ce qu'on parle à Strasbourg, mais avec des sonorités différentes. Et c'est ça qui fait aussi notre richesse, ces différences de parler ou de sonorité selon...
Gérard, je vais te donner un exemple. Dans le Bas-Rhin, pour dire une brouette, on dit « scholl korich ». Et chez toi, dans le Haut-Rhin, on dit comment ?
« Stoos korich ».
Ah, c'est rigolo, ça. « Stoos », ça veut dire « pousser ».
Oui,
quoi.
C'est ça.
Et ouais, c'est vrai qu'on a des mots différents, mais c'est de la poésie, l'alsacien.
C'est comme quand je suis arrivé à Strasbourg. Évidemment, on a tout de suite remarqué que j'étais orinois. Un jour, j'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est différent? On a dit, mais dans le Haut-Rhin, vous ne parlez pas une langue, vous avez une maladie de la gorge. Parce que nous utilisons le R, hein, IR, et pas I.
C'est vrai qu'il y a plus de A chez toi que de E chez nous là-haut.
Hein. Oui, puis il y a des différences comme Grumper, un
Artepfel, ouais.
Greya, que nous ne disons jamais.
Ah ouais.
C'est
ah ouais.
Bakuma. Hein, ou bien IR Greya Off. C'est une formule que j'aimais bien, c'est Alfred Elter de FR3 qui l'utilisait souvent quand il s'énervait. Nous, on ne dit jamais ça, on me le dira autrement. Ouais.
Et moi, je t'ai appris un mot, ça m'a fait plaisir.
Ah oui, ça, c'est une belle découverte.
Ça veut dire quoi, en fait? Tu as un peu peur?
C'est avoir peur.
C'est avoir peur, ouais. Alors, je sais aussi que tu as rédigé de nombreux ouvrages et en alsacien et tu donnes des conférences. Pourquoi tu as besoin de tellement écrire?
Disons, c'est pas tellement besoin, c'est plutôt dans le but de transmettre, parce que moi, je trouve important de transmettre ce que je découvre. Pour moi, il y a un extraordinaire trésor qui s'appelle le patrimoine oral de l'Alsace, avec les contes, les légendes, les proverbes, les comptines. Et pour moi, c'est important que ce patrimoine soit transmis, qu'il soit vivant, qu'il soit accessible. Normalement, c'est un patrimoine oral, mais on peut aussi et surtout le transmettre par l'écrit. Donc, c'est pour ça que je me suis fixé pour objectif de publier régulièrement des ouvrages, quand les éditeurs, évidemment, sont partants, et pour que ce patrimoine soit présent, qu'il soit accessible à tous. Ça, je tiens beaucoup à cette dimension-là.
Ouais, tu parles d'éditeurs, je sais qu'en ce moment, ils ont des gros soucis, ça manque de papier. Hein.
Oui, entre autres.
Entre autres, le papier. Alors, je voulais te poser une petite question. Tu écris tous les jours dans un cahier à spirale, une impression, une intention, un regard, et ça, tu le fais depuis toujours?
Non, pas depuis toujours, à peu près 25 ans. Je n'écris pas tous les jours, c'est en moyenne deux fois par semaine. Par exemple, en rentrant ce soir, je vais sûrement écrire que ce matin, j'étais avec André Alain Muller à Radio Judaïca, parce que ce sont des petits événements importants. Et c'est très précieux parce qu'au bout de quelques années, quand je relis un passage, je me dis « Ah, mais c'est vrai, j'ai vécu ça ben, ». C'est normal, je ne m'en souviens plus parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout.
Mais est-ce que tu as envie de rédiger de nouveau un livre par rapport à ça ? Tu as envie d'écrire quelque
pour
chose ?
Pour l'instant, non. Ça, c'est à titre personnel. J'ai fait pendant la première période de confinement, quand on n'avait le droit de sortir qu'un quart d'heure par jour, s'il vous plaît. On s'en souvient tous peu péniblement. J'ai rédigé un tout premier jet de mes souvenirs d'enfance. Ah. Et donc là, j'en suis à 204 pages.
Waouh ! Et mais tout ça dans le Münstertal ?
Non, un peu. D'abord le Münstertal, mais aussi l'aventure des Lustigemälker.
Ah oui.
Et donc, mais ça, il faut que je le retravaille parce que c'est du brut. Hein. C'est noté tel que ça vient, il faut que je le retravaille, je le complète, que je l'améliore.
Est-ce que tu as des fois des petites angoisses, des petites peurs, un peu de hemboul, est-ce que notre dialecte disparaisse, s'envole et que plus personne ne parle le dialecte ?
Disons que je suis plutôt d'un tempérament optimiste, mais je suis réaliste et lucide, donc il est vrai que les deux parlés, ou les deux dialectes qui sont parlés en Alsace, le francique et l'alémanique, il y a une érosion. Ça, c'est clair, toutes les enquêtes le montrent, mais je pense qu'il va quand même rester, certainement plus autant de monde va le parler, ou vont le parler, mais il va rester quand même comme un élément de notre culture, et moi je trouve que c'est important que l'Alsacien, sous ces deux formes alémanique et francique, reste vivant.
Tu penses qu'on se donne les moyens pour garder ce dialecte, les jeunes générations, comment il faut faire ? Je crois que mes petits-enfants, j'ai beau leur parler l'Alsacien, mais je ne sais pas si ils connaissent quelques petits mots. Mais
ils sont complètement pris de la culture de langue française, parce que dès qu'ils passent à l'école, j'ai beaucoup d'exemples autour de moi de parents qui parlent que l'alsacien avec leurs enfants, mais dès qu'ils passent à l'école, c'est presque fini. Ils comprennent, mais ils ne répondent plus.
C'est là qu'on devrait faire un effort, je pense, que dans les écoles. Bon, ils ont fait ça dans les années 80-90, ils ont mis du dialecte dans les maternelles et tout, mais j'ai l'impression que ça n'a jamais abouti, quoi.
Ça aboutit, mais ce n'est pas suffisant. Il y a le beau projet ABCM avec un enseignement bilingue vraiment de qualité et puis équitable en quelque sorte. Il y a énormément de choses qui sont faites pour que l'Alsacien soit préservé, qu'il soit vivant, qu'il soit cultivé. Je pense à l'OLCA, mais aussi à d'autres associations qui travaillent dans ce sens. Nous sommes tous conscients qu'il y a un gros souci, une urgence parmi beaucoup d'autres urgences, hélas, de préserver cette langue parce qu'elle fait partie de notre être. Et que ce serait dommage qu'elle disparaisse complètement. Il y a aussi tout ce patrimoine auquel je suis très attaché qui est transmis par cette langue. Et l'exemple du mot hemboul, souhamboul, c'est un bel exemple de la richesse des mots. Ce sont des mots qui sont lautmalerisch, comme on dit en allemand, c'est-à-dire qui sont descriptifs. Hein. On a beaucoup de mots, d'expressions en alsacien qui sont extraordinaires parce qu'on voit tout de suite ce qui est dit.
Et alors, je sais aussi, j'ai eu la chance d'assister à une de tes nombreuses conférences à Holzheim, je crois, où tu parlais en dialecte devant un parterre de gens nombreux. Et tu m'as appris plein de choses, par exemple sur le décès autrefois. Raconte-nous un peu comment ça se passe quand tu...
Le thème de la conférence était « Fantômes et revenants en Alsace », auquel j'ai consacré 4 années de travail pour en faire un gros bouquin. Et il est vrai que une des peurs de nos prédécesseurs, c'était que les défunts reviennent dans le monde des vivants pour les embêter. Et alors, pour que ça n'arrive pas, généralement, il fallait qu'on respecte très strictement les rites funéraires. Entre autres, quand une personne venait de décéder, lui fermer les yeux, arrêter les horloges, mettre un voile noir sur le miroir. On posait aussi, ça je l'ai entendu dans la Weidmaster, à côté de la fenêtre de la chambre, on mettait un seau avec de l'eau ou parfois du lait. Pourquoi ? Parce qu'on pensait que l'âme, avant de s'envoler, allait se baigner dans ce seau, donc elle allait se purifier. Voilà donc tout un ensemble de traditions dont j'ai pu collecter pas mal d'éléments auprès des personnes et qu'il fallait absolument respecter. Par exemple aussi, quand on rentrait de l'enterrement, il fallait changer les meubles de place. Pourquoi ? Parce que si jamais le mort revenait, il ne reconnaîtrait pas son espace à lui. Il se dirait « je ne suis pas chez moi ici, donc je repars ». Donc, on faisait tout ça pour essayer, dans toute la mesure du possible, que le mort ne revienne pas hanter le monde des vivants. Mais alors, l'Église a créé un concept ou un dogme tout à fait extraordinaire qui s'appelle le purgatoire, à partir de la fin du XIIe, début XIIIe siècle. C'est-à-dire que au lieu que l'âme aille directement au paradis ou en enfer en fonction de sa couleur, blanche ou noire, il y a un lieu intermédiaire. C'est-à-dire qu'on a...
T'es suspendu quelque part,
voilà,
en attendant
ça s'appelle
de
le purgatoire.
Ah, ouais.
Et donc, on est entre... On va passer un certain nombre d'années à être purifié, purgé de ses péchés. Et donc, l'âme va demander l'aide des vivants pour sortir plus rapidement par des pèlerinages, des prières ou bien des actes de piété. Et c'est pour ça qu'on dit, par exemple, des messes, hein, anniversaires dans la tradition catholique. Ça n'existe pas chez les protestants. Et donc, tout ça, c'était fait pour que les âmes qui sont au purgatoire puissent sortir plus rapidement et aller au ciel, au paradis. Et ces âmes, elles demandent, elles sollicitent l'intervention des vivants. Alors, ces âmes, elles peuvent se trouver dans les glaciers, mais elles subissent surtout la morsure du feu. Et là, il y a ce thème tout à fait extraordinaire parmi beaucoup d'autres, c'est celui des hommes de feu. Par exemple, un paysan qui déplace une borne pour agrandir son champ au détriment de son voisin, ça se faisait quand même assez souvent, eh bien, il était condamné après sa mort à errer sur ce champ en tenant cette borne dans ses bras. Et il est plein de flammes, puisque ce sont les flammes du purgatoire. Et alors, il se lamente, il dit en alsacien, « Mussolina onamora, où est-ce que je dois mettre cette borne ?» Alors, les gens, ils passent, ils disent, « Tu n'avais qu'à ne pas voler la terre à ton voisin. » Jusqu'au jour, par exemple, c'est une légende qu'on raconte, où un ivrogne passe, il a déjà si souvent entendu cet homme de feu se plaindre, qui lui dit, mais Fertegl, hein, en alsacien, mets-le donc là où tu l'as pris. Et donc, il remet la pierre en place et tac, l'équilibre est rétabli et donc il peut entrer au paradis.
Waouh, tu en sais des choses, Gérard. Et là, maintenant, pour tes oreilles, pour les reposer un peu, on va peut-être écouter une petite musique, quelqu'un que tu apprécies tout spécialement. Revenir dans la vraie vie, c'est vrai que c'est beau pour les oreilles. Hein. Tu as reconnu ?
Oui, oui.
C'est qui ? C'est
Handel.
Handel que tu aimes, hein, que tu affectionnes.
J'aime beaucoup.
Pourquoi tu l'aimes beaucoup ?
Ah, parce que je trouve que ses mélodies sont belles, elles sont très, très lentes, elles ont une coloration tout à fait extraordinaire et je trouve qu'elles sont très reposantes. Quand j'écoute du Handel, c'est quelque chose qui me détend et... J'aime beaucoup la musique baroque, j'aime beaucoup Handel, j'aime Bach, j'aime d'autres compositeurs.
Wagner
aussi, un peu moins, mais je suis absolument fasciné par son architecture sonore, c'est extraordinaire. Par exemple, le début de Lohengrin, cette pluie qui tombe, c'est magnifique.
C'est super beau.
C'est puissant, quoi. C'est une grande architecture sonore.
Ouais. Et cette voix de cette dame qui a chanté à l'instant,
c'est
vrai que ça te réveille les oreilles. Hein, c'est vrai.
Comment?
Et alors, ici, tu sais qu'on est chez Radio Judaïka, on peut aussi parler un petit peu de ce dialecte qui est un mélange avec l'alsacien, avec le yiddish. Moi, je me souviens d'un mot que ma mère disait de temps en temps, « Du samol junger, tu pêches manchoukes ». Ça, c'est un mot qui vient... Cette racine vient d'où, alors ?
De meshugach, en hébreu, qui signifie « être fou ». Remo Madsen, qui était une grande figure de la dialectologie alsacienne, avait réuni à peu près, si je me souviens bien, 200 mots qui sont utilisés couramment en alsacien, qui sont originaires effectivement de l'hébreu ou qui viennent du yiddish. Pourquoi ? Parce que dans la société rurale alsacienne, juifs et chrétiens vivaient, si possible, du moins au XIXe siècle, la bonne intelligence. Et donc, il y a eu une sorte des échanges, des emprunts de langage. Et le yiddish était parlé en Europe centrale. Il était aussi parlé chez nous, c'était le yiddish deutsch, le judéo-alsacien avec ses spécificités. Et donc, les Alsaciens ont emprunté toute une série de mots à leurs voisins juifs. Par exemple, l'homme ou la femme qui s'occupait de la famille juive le jour du sabbat, c'était goï. Goï, ça signifie l'étranger, le non-juif. Ou bien à Shlomosl, hein, quand ça se passe mal, ou bien encore...
Ça veut dire quoi, Shlomosl, was heißt das?
Dans ces Shlomosl, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment en ordre.
Ah,
ou alors à Moka, hein, arrête à Moka.
Chez Moka, ça veut dire que t'es un peu fou, non?
Non, un défaut.
Ah, un défaut. Et chez Moka. Ah, ouais.
Ou à Kof, c'est un petit village, mais Kof en hébreu signifie la paume de la main.
Ah, ya. Yeah.
Ou la Orla, ça signifie manger. On l'utilise dans certaines régions de l'Alsace, ça doit être Orla, et ça signifie manger en hébreu. Et ainsi de suite, Baït, Boyet, Baït, en hébreu, c'est la maison. Enfin, il y a toute une série comme ça de mots qui ont été empruntés. On ne sait même plus que ça vient de l'hébreu. Et je trouve ça superbe qu'il y ait eu cette influence parce que le judaïsme est présent depuis très longtemps en Alsace et c'est important de l'évoquer parce que c'est une culture, une histoire, un peuple qu'il s'agit de respecter profondément.
Absolument, tu as tout à fait raison. Alors, je sais aussi que tu es président d'une association et tu es un conférencier. Parle-moi un petit peu de ces conférences que tu fais. Là, bientôt, dans quelques semaines, va démarrer quelque chose.
Oui, nous sommes donc dans la 23e édition du Festival de Contes de la Vallée de Münster, dont je suis depuis maintenant bientôt 9 ans président. Il a été fondé en 1999. Et ce festival de contes aura lieu du 30 septembre au 20 octobre. Et pour nous, c'est très important parce que c'est un des festivals de contes d'Alsace. C'est le festival d'automne de la vallée de Münster, puisqu'il se déroule dans la vallée de Münster avec quand même une présence à Turckheim et à Winzenheim, où il y avait une très grande communauté juive, ceci dit en passant. Et donc, on s'est surtout concentré sur les week-ends. Donc, le mieux, c'est d'aller sur notre site, qui est la www.valleydescontes, et on trouvera le programme, puisque là, ça n'a pas de sens de le lire maintenant, puisque ça commence seulement dans un peu plus d'un mois. Mais en tout cas, c'est important, c'est une équipe de bénévoles qui porte ce projet, et c'est quelque chose de super.
Qu'est-ce qu'on apprend, alors ? Qu'est-ce que vous racontez ?
On invite des conteurs qui viennent d'un petit peu partout.
De toute l'Alsace ?
Et pas seulement d'Alsace. Nous invitons, par exemple, un des grands conteurs d'origine libanaise, Jihad Darwish, Michel Hindenock, et ainsi de suite. Donc, nous invitons de grands conteurs qui sont connus au niveau national. Nous invitons des conteurs qui sont plus connus sur le plan régional. Nous invitons des conteurs qui sont connus sur le plan local. Par exemple, moi, je vais participer à une soirée entièrement en dialecte à l'auberge du Braunkopf avec une musicienne, Jocelyne Gauthier, et avec quelqu'un qui connaît beaucoup de Wets alsaciens, Jean-Michel
Lichtenstein. Ouais,
donc ça, voilà, il faut s'inscrire, il faut réserver, parce qu'évidemment, il y a des places limitées. Mais voilà, donc c'est très, très différencié. Et on termine par un très beau spectacle de musique et de contes irlandais le 20 octobre à Turckheim, dans la belle salle Rive-Droite. En tout cas, c'est un ensemble de contes, de spectacles de contes qui est tout à fait passionnant et c'est, comme dit, porté par une équipe de bénévoles.
Prima, des séchettes Schengsat. Yeah. Et d'Ivoire Gérard, alors je sais aussi tout à l'heure, on a parlé de cette nature qui a souffert cet été. Qu'est-ce qu'elle t'amène, cette nature, quand tu t'y promènes ? Je sais, par exemple, par des amis à toi, que tu te promènes pieds nus dans les rivières, tu remontes des rivières, tu viens admirer la nature. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette nature ?
Elle m'apporte d'abord le fait que je suis un vivant parmi d'autres vivants. Ne l'oublions jamais. Donc, une certaine humilité. Deuxièmement, nous sommes complètement coupés, du moins notre société, de la nature et nous en découvrons aujourd'hui les méfaits. ça c'est clair, avec la sécheresse, avec le manque d'eau, beaucoup d'autres choses. Donc il s'agit absolument de se reconnecter avec la nature dont nous faisons partie. Nous ne sommes pas au-dessus, nous sommes dans, vivant parmi d'autres vivants. Marcher dans les rivières, c'est être en contact avec l'eau, avec cette énergie fondamentale de l'eau qui non seulement fait vivre les plantes, les animaux, les humains, mais aussi c'est être en contact avec une énergie tout à fait fondamentale qui, moi, me nourrit, qui me donne de la force. Et je reconnais qu'après avoir marché dans une rivière...
Ça, mais attends, mais tu glisses pas mousse, avec les...
Non.
T'es sûr? Tu tombes
pas? Je mets de vieilles chaussures avec de bonnes semelles.
Ah, donc t'es pas pieds nus? T'es avec une paire.
J'évite, parce que parfois, il peut aussi y avoir des morceaux de verre, on ne sait jamais. Donc
et les piranhas, les poissons qui peuvent te manger?
Non, ça, il n'y en a pas. Il y a des baleines carnivores, mais je les évite.
En Alsace?
Voilà. Non. Et puis, voilà, c'est important, ou bien se promener en forêt. Les Japonais ont développé, ils appellent ça le bain de forêt. Et c'est important parce que la forêt nous apporte beaucoup de bienfaits. Les arbres, nous savons qu'ils communiquent entre eux, sont des êtres vivants, extraordinaires.
Ils communiquent, ça veut dire par...
Par les racines.
Par des racines,
ah, oui. Oui, là, il y a eu...
Mais aussi par la canopée, sans doute.
Certainement, par des phéromones. Enfin, c'est très complexe et c'est fascinant. Donc, se promener en forêt, c'est très important parce que ça nous recharge en énergie, ça nous détend. Ça nous fait du bien. Je sens toujours, quand je reviens d'une de ces expéditions en forêt après avoir marché dans l'eau, eh bien, une bonne fatigue m'envahir. Et ça, c'est très important parce que c'est une fatigue saine, de détente, en quelque sorte de recharge par rapport à la vie trépidante, entre guillemets.
Tu veux dire Gérard Tantschlaufspesser?
Filmol, il y a un été mort avant Filmol.
Nickerlamorche, quand tu fais une petite sieste, ça aussi c'est un joli mot,
Nickerla, oui.
C'est beau, hein.
Mais ça vient de Ineka, c'est quand la tête tombe. Comme
ça. D'accord. Alors Gérard,
la nuque de Ineka.
Alors Gérard, on parle aussi de forêt. Est-ce que tu peux me dire auprès de quel arbre tu aimerais faire une sieste? Quel est ton arbre préféré?
Il y en a beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les très beaux sapins, mais aussi les feuillus. Par exemple, j'aime beaucoup le tilleul, qui est très très beau, les hêtres. Alors, il paraît qu'il faut se méfier de l'ombre faite par les feuilles du chêne, parce que c'est une ombre qui n'est pas très propice.
Pourquoi?
Les feuilles du chêne contiennent, paraît-il, un produit qui n'est pas très bon à respirer. Enfin, j'ai un jour lu quelque chose là-dessus. Mais en tout cas, pour moi, c'est très très important. Et comme je suis né dans une vallée de montagne, la vallée de Münster, avec de belles montagnes, quand j'habitais Strasbourg, je sentais absolument le besoin de temps en temps, ou plutôt régulièrement, de revoir ces montagnes. C'est comme une sorte de nourriture de l'être, voilà.
Tu veux dire que Strasbourg, c'est un peu moins bien que ta vallée de Münster?
Pas du tout, c'est différent. Moi, j'étais très content quand j'étais à Strasbourg de voir le Münster de Strasbourg,
Sminster, la cathédrale. Ah, mais tu sais qu'à Strasbourg, on a aussi des grands parcs comme l'Orangerie, les Comtades, où il y a des arbres majestueux, qui sont des arbres remarquables,
absolument,
comme les platanes, là, juste derrière la radio, qui ont peut-être 250 ou 300 ans.
Hein,
et c'est très, très beau. Alors, est-ce qu'il t'arrive de rêver comme ça, près d'un arbre, t'asseoir, lire un livre?
Ah oui, ça m'arrive parfois de lire un livre. Je m'assieds sur un banc à côté d'un bel arbre. Et ce que j'aime aussi, c'est voir le mouvement des feuilles ou des branches quand il y a du vent.
Ça c'est beau, avec le bruissement des feuilles.
Oui.
Ah ouais, c'est de la poésie.
Et puis moi, j'aime bien quand il y a du vent. C'est aussi un de ces éléments fondamentaux de la nature. Être debout, de sentir le vent couler sur soi. Alors je suis là comme les bras écartés. Je sens le vent qui passe. Et c'est vrai que, il faut plutôt éviter le sommet des Vosges quand il y a des tempêtes à 120 km/h, parce
difficile.
Que là, tu t'envoles.
Mais dans la ville, beau, quoi.
En ville et même dans la campagne ou en forêt, quand il y a du vent, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup le vent parce que c'est une force. Et n'oublions pas que les Vosges sont le premier obstacle qu'on rencontre, le vent et les nuages, forcément, qui viennent de l'océan. Avant, c'est tout plat, sont obligés de monter. Et c'est pour ça qu'ils déchargent d'abord la moitié de leur pluie du côté de Gérardmer et du Honeck, ensuite une autre partie à Münster, et quand ils arrivent à Colmar, il n'y a plus rien.
Ah oui. Mais c'est, mais ce matin, il pleuviotait un peu, une petite bruine comme ça, un peu
c'est
comme en Bretagne.
Bien.
Et ça aussi, j'adore me balader avec une petite parka, une petite casquette, et tu te promènes sous la pluie.
Par exemple, c'est... avant-hier, il y a eu une pluie orageuse. Il y a eu des coulées de boue à Turckheim. Pourquoi ? Parce que la pluie tombe fort. La terre, comme elle est sèche, n'a pas le temps de s'en imbiber, en quelque sorte. Et donc, l'eau va glisser sur le... sur la surface de la terre, elle va arracher de la boue, et c'est ce qui est arrivé entre autres à Turckheim.
Ouais. Alors là, je vais parler derrière le miroir, là, derrière la grande fenêtre à Lucas. Lucas, tu peux nous mettre un autre morceau de musique pour reposer un peu les oreilles, et une autre surprise pour notre ami, peut-être qu'il va reconnaître cette musique. Venir au studio avec la lumière rouge est allumée. Donc Gérard, j'ai une autre petite question que j'aime beaucoup. J'ai rencontré un jour en tournage l'abbé Pierre, et l'abbé Pierre demandait toujours aux journalistes, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour l'autre ? Moi, j'ai envie de te demander, de poser la question autrement. Gérard, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour la planète qu'il faut préserver ? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?
Alors, c'est un sujet pour moi très sensible, puisque bien sûr, je suis conscient de ce qui se passe avec la sécheresse, avec le changement climatique, avec la fonte des glaciers, fonte de la banquise. Je crois que c'est important que nous revoyions complètement notre mode de fonctionnement et que nous entrions plus dans ce que Pierre Rabhi appelait si justement une sobriété heureuse, avec moins. Nous devons apprendre aujourd'hui, je le dis aussi pour moi, à vivre avec moins. C'est-à-dire, par exemple, j'ai choisi de vivre sans voiture. Ça a des avantages et des inconvénients.
Tu es venu comment ce matin à Strasbourg ?
Et à pied.
Avec le train et à pied, ouais.
De la gare jusqu'ici à pied, parce que j'aime beaucoup marcher. Ouais. C'est important aussi pour ma santé. Prendre le train, je vis sans télévision parce que ça ne m'intéresse plus. Si j'ai envie de voir un replay sur Arte, je vais sur Internet et puis je regarde. Toute une série de gestes, faire attention à l'utilisation de l'eau. Si je prends une douche, ben j'essaie d'utiliser le moins d'eau possible. Je me lave les dents.
Tu ne fais pas couler l'eau quand tu te laves les dents ?
Non, non. Enfin, si, juste pour
un petit peu pour rincer. Ouais.
Mais voilà, je crois qu'il y a toute une série de petits gestes comme ça à mettre en place. Qui, bien sûr, ce sont des petites gouttes, mais si nous, plus nous sommes nombreux à le faire, plus ce sera important. Et parce que vraiment, nous sommes devant un changement, une rupture majeure. Je crains que si nous continuons comme ça, les scientifiques nous le disent, si nous continuons comme ça, c'est l'humanité qui risque elle-même de disparaître.
Mais tu vois, je pense que la politique et même les villes ne font pas assez de choses. Je pense à l'Allemagne, ils ont fait un ticket de train à 9 euros. Pourquoi nous, ici à Strasbourg, on ne peut pas faire ça ? Faire un ticket pour toute la ville, pour tous les gens qui se déplacent en tramway et même aller en train ? Pourquoi faut-il tout le temps payer autant d'argent ?
L'idéal, ce serait que tous les transports soient gratuits.
Ça, ce serait génial.
Ce serait génial, mais ça, c'est évidemment difficile à mettre en place. Après, c'est une question de volonté politique, bien sûr.
Gérard, on a beaucoup papoté, c'était très intéressant de t'avoir comme invité. Vous voyez, on a tous les deux. Voilà, je crois que ça se termine tout doucement, on a encore quelques secondes. En tout cas, je voulais te remercier, tu étais un très bel invité. Je t'ai fait une belle petite place à côté de ce micro. On a appris plein de choses. Merci beaucoup Gérard de ton invitation. Rentre bien avec le Filmotsmersion, comme que tu as même tramway, même tzouk. Donc c'est, voilà, tu as fait une belle chose aujourd'hui pour la planète.
Oui,
merci,
cet
Gérard.
Après-midi, je vais à Wilhelmsheim, toujours en train.
Holz ist fertig, hein? Coupez moteur!
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà.